Beaucoup et excellente idée de cette année des géosciences pour lesquelles ma présentation va s'appuyer essentiellement sur l'angle du climat, des variations passées du climat, des changements actuels et des projections d'évolution future. Alors, je commence avec l'une des figures du rapport de synthèse du GIEC de 2023 que nous avons humanisé en ajoutant des personnes nées à des moments différents. Et qui montre plusieurs dimensions de la contribution des géosciences. Être capable d'observer l'évolution de la température à la surface de la Terre. Et je montrerai également comment on peut situer un ensemble d'indicateurs clés de l'état du climat par rapport aux variations passées. Et enfin, le progrès des géosciences pour l'attribution, c'est-à-dire dans ce système climatique complexe qui va répondre à des facteurs naturels, qui a sa propre variabilité intrinsèque, avec une influence humaine croissante à l'échelle planétaire, comment il est possible de comprendre les causes des changements qui sont observés. Et enfin, la capacité à combiner la compréhension des processus, la modélisation du climat avec les contraintes issues des observations et des projections pour contraindre les projections d'évolution future du climat en s'appuyant sur l'ensemble de ces sources de connaissances, des éléments probants issus des géosciences. Et puis le dernier volet, bien sûr, l'évolution future du climat va dépendre des émissions de gaz à effet de serre à venir. Les progrès de l'action pour le climat ont déjà rendu des scénarios d'émissions très élevés implausibles. Nous sommes plutôt sur un scénario intermédiaire sur l'extrapolation des politiques publiques. Nous avons des connaissances qui montrent la possibilité de décarboner plus rapidement avec des défis dans tous les secteurs d'activité. Et cette décarbonation rapide va poser de nouveaux défis pour les géosciences, notamment pour un certain nombre de ressources critiques. Enfin, les conséquences de ce climat qui va changer dans les prochaines décennies, peut-être se stabiliser d'ici à la fin du siècle si on agit à hauteur des enjeux, ce seront également des contraintes pour la gestion soutenable de l'eau, de la biomasse, de l'océan et à nouveau des besoins de connaissances des géosciences pour éclairer les politiques publiques. Donc voici un dessin d'artiste des différentes sources de connaissances issues des géosciences qui contribuent à l'avancée des sciences du climat, la compréhension des climats passés à partir des archives naturelles, la compréhension des processus avec les progrès théoriques, y compris de la physique, la chimie ou la biologie, le développement de modèles de climat, puis de systèmes Terre, les progrès des méthodes d'observation du haut de l'atmosphère jusqu'au fond de l'océan, qui nous donnent en fait maintenant cette vision claire des variations climatiques passées, des changements actuels et des évolutions futures, mais aussi bien sûr avec des incertitudes, des limites des connaissances qui font la beauté de nos métiers. Alors d'abord, quelques points de repère dans l'histoire des sciences du climat qui sont importants. Quand on regarde l'évolution des capacités d'observation, on voit les premiers travaux pour cartographier les climats de la Terre et puis commencer à observer les caractéristiques de l'océan en surface et puis en profondeur. Les progrès de la compréhension des variations passées du climat et puis la rupture hein, que constitue l'observation de la Terre depuis l'espace qui ont façonné en fait hein, ces progrès de l'observation passée et actuelle du climat de la Terre. Au milieu, vous avez cet indicateur, le changement de température observée en surface des continents, en surface de l'océan. Et vous voyez la réactualisation que j'ai faite. Toutes ces figures hein, sont tirées des rapports du GIEC de 2021, sauf mention spécifique. Et vous voyez donc cette réactualisation où, pour la première fois en 2024, on estime que la température à la surface de la Terre va atteindre 1,5 degré de plus que le climat pré-industriel. Tant qu'on émettra des gaz à effet de serre en quantité importante, le climat va accumuler de la chaleur. Cela se produira de plus en plus et on estime qu'un niveau de réchauffement d'un degré et demi sera atteint une année sur deux, donc vraiment franchi au sens climat, d'ici une décennie. Je rappelle que l'accord de Paris sur le climat vise à contenir le réchauffement largement sous 2 degrés, avec l'aspiration à le limiter à 1,5 degré. Et vous voyez à quel point nous allons rapidement vers ce niveau de réchauffement planétaire. En bas, vous avez l'évolution de la concentration en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Tout à l'heure, je la mettrai en perspective dans le temps long. Et cette courbe est le fruit de mesures directes dans l'atmosphère depuis les années 1900, la fin des années 1950, avec des concentrations qui sont à la fois le fruit de nos émissions, de la réponse naturelle de la végétation, des sols, de l'océan, ces puits de carbone, une concentration qui continue à augmenter rapidement et que l'on peut situer dans le temps long, notamment à partir de l'analyse de l'air piégé dans les bulles des glaces polaires et puis d'autres sources d'informations à l'échelle géologique qui nous donnent accès à un temps long. Et enfin, la compréhension du rôle des gaz à effet de serre sur le fonctionnement du climat. Elle a été établie par les progrès de la physique, Joseph Fourier, le fonctionnement, l'image de l'effet de serre, la compréhension du rôle du CO2 comme gaz à effet de serre, mais aussi la caractérisation de grandes variations passées du climat, la compréhension que le climat n'est pas stable, qui, vers la fin du XIXe siècle, a été une rupture dans notre vision du monde. Et puis ces connaissances qui se sont affinées, le rapport, par exemple, Charney en 1979, qui a posé les bases de la compréhension de l'influence humaine sur le climat planétaire et ses évolutions futures, avec la notion de sensibilité du climat, ou plus récemment notre capacité à boucler la compréhension de ce qui affecte les flux de rayonnement de la Terre, le bilan d'énergie de la Terre, le bilan du niveau de la mer, qui reflète en fait une compréhension croissante du rôle des émissions de gaz à effet de serre, notamment de CO2, sur l'évolution du climat planétaire. Et c'est aussi un constat qui fait évoluer profondément la manière dont nous nous voyons collectivement par rapport à notre effet sur le devenir du climat de la Terre. On a une action pour le climat qui monte en puissance et qui est le reflet d'un travail de longue haleine, justement, depuis la fin des années 70, de communication des résultats, des connaissances scientifiques, de leurs implications, un ensemble d'institutions, de structures à l'interface science et société. On a une baisse régulière des émissions de gaz à effet de serre en France, en Europe, aux États-Unis, un pic prochain en Chine. Les politiques publiques ont permis d'éviter d'émettre plusieurs milliards de tonnes de gaz à effet de serre chaque année dans l'atmosphère, notamment en particulier par des politiques d'innovation permettant d'accéder à de l'électricité bas carbone, d'efficacité énergétique. On sait ce qui fonctionne pour ralentir la déforestation. On a également les leçons qui sont tirées des conséquences de ce climat qui change, avec une montée en puissance de l'adaptation, mais souvent réactive. On est touché par une vague de chaleur, on met en place des plans canicules fragmentés, pas suffisamment par anticipation, avec un décalage croissant entre la capacité de gérer les risques et la vitesse du changement climatique, et parfois des réponses inadéquates, ce qu'on appelle une maladaptation qui va elle-même entraîner ou aggraver d'autres risques. Néanmoins, au niveau mondial, et le contexte français l'illustre bien, les flux financiers en appui à la décarbonation, donc ce qu'on appelle l'atténuation, les flux financiers en appui à l'adaptation, reste insuffisant et par conséquent, les actions qui sont actuellement mises en œuvre et les engagements restent encore insuffisants pour limiter les risques liés au changement climatique. Alors je l'illustre ici, notamment à travers l'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le monde qui continue à augmenter. Quelques points à noter, ce qui pèse le plus, ce sont les énergies fossiles. L'histoire des géosciences, c'est aussi une capacité de progrès techniques, de mieux exploiter un ensemble de ressources. Et cette situation est la conséquence de choix de société, de vision d'un monde ressources et une exploitation non soutenable, que ce soit pour les énergies fossiles, mais aussi par rapport à l'utilisation des terres et la déforestation, la partie en vert, que ce soit par rapport à notre système alimentaire et aux émissions de gaz à effet de serre spécifiques associées, notre utilisation de matériaux et des modes de consommation, de production, des styles de vie non soutenables. Sur le premier facteur qui pèse sur le niveau de réchauffement actuel, ce sont les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, également les émissions de méthane liées aux énergies fossiles. Ensuite, le système alimentaire, c'est environ un tiers des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Nous interférons avec le cycle du carbone à l'échelle planétaire sur ces émissions de CO2, de l'ordre de 40 milliards de tonnes déversées dans l'atmosphère chaque année. Environ un quart est repris par l'océan, ce qui conduit à son acidification. Environ un tiers est repris par la réponse naturelle de la végétation et des sols, mais cette réponse est contrainte notamment par l'eau disponible pour la photosynthèse. On a également des signaux récents d'augmentation de mortalité d'arbres, de dépérissement de forêts, de quantités énormes de CO2 émises par des conditions propices aux incendies à grande échelle, comme au Canada en 2023, où les feux de forêt ont émis autant de CO2 que l'Inde en un an. Donc, un enjeu est de mieux comprendre la réponse de ces puits de carbone, et notamment, on sait qu'ils vont perdre en efficacité dans un climat plus chaud, avec un océan dont la chimie change, un océan qui se mélange moins bien, les contraintes du climat sur la végétation et les sols. Mais on a encore besoin d'affiner ces connaissances concernant la réponse des puits de carbone. Aujourd'hui, on a environ 45% des émissions de CO2 annuelles qui s'accumulent dans l'atmosphère. Sur la base des politiques publiques actuelles, on s'attend à une augmentation lente des émissions de gaz à effet de serre cette décennie. Si les promesses dans le cadre de l'accord de Paris sont tenues, elles engageraient une légère baisse. Les promesses spécifiques sur la transition énergétique de la COP28, doubler le rythme d'efficacité énergétique, tripler dans le monde le déploiement des renouvelables, pourraient permettre à horizon 2030 d'abattre à peu près 10% des émissions du secteur des énergies fossiles et donc marquer un pic et une baisse nette des émissions de ce secteur. On va voir que ça n'est pas encore suffisant pour pouvoir contenir le réchauffement. C'est important de comprendre dans le monde les secteurs qui pèsent le plus, et c'est notamment l'utilisation d'énergies fossiles pour produire de l'électricité, de la chaleur, la production industrielle, l'utilisation des terres et la production alimentaire, la déforestation, les transports et le bâtiment. Et quand on réalloue l'utilisation d'électricité et de chaleur à chaque secteur, l'image change et on voit en fait dans le monde ce qui pèse le plus, c'est la production industrielle qui reste tirée à la hausse par la demande de matériaux de base, métaux, plastiques, ressources pour la construction, avec cet enjeu extrêmement important d'intégrer dans notre réflexion pas uniquement les systèmes de production, mais aussi l'évolution de la demande, l'efficacité, la sobriété en énergie, en matériaux, en terre et en eau, comme un des leviers d'action essentiels pour sortir de cette vision d'un monde ressources et construire les conditions d'une limitation du réchauffement. Si l'on regarde sur les dernières années, d'une année à l'autre, ce qui tire à la hausse ou à la baisse les émissions de CO2 liées aux énergies fossiles, vous voyez qu'on a un facteur qui tire à la hausse, qui est l'évolution de la population mondiale, qui ralentit. On a un deuxième facteur fluctuant, qui est l'évolution de la richesse par habitant, qui tire à la hausse la consommation, la demande, l'utilisation d'énergie fossile. Et à l'inverse, on a deux facteurs qui jouent de plus en plus et qui le tirent à la baisse. C'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire quelle quantité d'énergie par unité de richesse produite. Et enfin, la décarbonation des mix énergétiques, quelle quantité de CO2 émise par quantité d'énergie produite. Et vous voyez les progrès qui sont mis en œuvre et qui expliquent le ralentissement que l'on observe dans les émissions mondiales de CO2 liées aux énergies fossiles. Alors si on met ces évolutions récentes dans le temps long, donc vous avez l'évolution mesurée dans l'atmosphère avec la courbe rouge en haut. Ensuite, les informations issues des carottages dans les glaces sur les derniers 800 000 ans et les indices issus de l'analyse des vestiges géologiques terrestres et dans les sédiments marins. Vous voyez que le niveau actuel de CO2 est environ 50% plus élevé que le niveau pré-industriel dans l'atmosphère. C'est inédit sur plus de 2 millions d'années, peut-être même 14 millions d'années. L'augmentation récente, elle est inédite, 10 fois plus rapide qu'au cours du dernier million d'années, 4 à 5 fois plus rapide que les variations les plus rapides, telles qu'on peut les caractériser, des derniers 56 millions d'années. Donc c'est une rupture. On est capable, depuis les années 60, en fait, de prouver que cette augmentation est la conséquence des activités humaines et de l'utilisation d'énergies fossiles. On le montre, par exemple, en analysant le gradient de concentration de CO2 entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, les sources industrielles étant essentiellement localisées dans les zones urbanisées de l'hémisphère nord. On peut le démontrer en analysant le carbone 13, le carbone 14 du CO2 atmosphérique, qui montre que cette augmentation est associée à du CO2 très ancien, initialement issu de plantes, charbon, pétrole, gaz. Et enfin, la diminution concomitante de la teneur en CO2 de l'atmosphère, très ténue mais que l'on peut quantifier, montre qu'il s'agit principalement d'un processus de combustion. Ce sont des preuves et notre conclusion est très claire. L'augmentation du CO2 dans l'atmosphère est due aux conséquences de la combustion des énergies fossiles principalement, dues aux activités humaines. Alors l'attribution par rapport aux causes et aux conséquences à l'échelle du changement climatique a notamment été conçue avec la capacité à discerner l'empreinte sur le fonctionnement du climat de différents facteurs causatifs par le chercheur Klaus Hasselmann, avec d'autres collègues bien sûr, dont les travaux ont été récompensés par le prix Nobel de physique en 2021. Donc cette attribution, c'est un processus d'évaluation des contributions relatives de différents facteurs, variabilité spontanée du climat, réponse du climat à des facteurs naturels qui agissent sur le bilan d'énergie de la Terre, réponse du climat aux facteurs humains qui agissent sur le bilan d'énergie de la Terre, avec une évaluation du degré de confiance. Alors, première approche, qu'est-ce qui perturbe les flux de rayonnement entre la Terre et l'espace depuis les années 1750, le début de la révolution industrielle? Vous avez la toute petite courbe jaune près de l'axe horizontal qui quantifie l'effet des variations d'activité du Soleil. Les barres verticales négatives reflètent l'effet, on va dire, parasol temporaire des particules émises lors des éruptions volcaniques explosives, qui ont généralement un effet refroidissant à court terme, pendant 1, 2, 3 ans, sur les flux de rayonnement. C'est d'ailleurs le facteur déterminant de la variabilité du climat à l'échelle des derniers millénaires. Enfin, vous avez une quantification de chaque aspect lié aux activités humaines, avec en haut l'effet réchauffant des gaz à effet de serre. Premier facteur, CO2. Deuxième facteur, méthane, qui a également un effet indirect, conduisant à davantage de formation d'ozone près de la surface, gaz à effet de serre et polluants. Enfin, vous avez également en bas l'effet refroidissant des particules de pollution qui sont émises également lors de la combustion de biomasse et d'énergie fossile. Et vous voyez que les progrès des politiques publiques en Europe, en Amérique du Nord ou bien en Chine, pour améliorer la qualité de l'air, ont permis de réduire, et de manière visible à l'échelle planétaire, les émissions de ces particules de pollution. Du coup, on perd une partie de leur effet parasol, et c'est maintenant un facteur de réchauffement, en plus de l'effet croissant dû aux émissions de gaz à effet de serre. De ce fait, sur les derniers 20 ans, on a en fait une influence humaine sur les flux de rayonnement, le forçage radiatif au sommet de l'atmosphère, qui se produit à un rythme encore plus élevé qu'au cours des décennies précédentes. Alors, cette accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère empêche une partie du rayonnement infrarouge de partir vers l'espace. Ce rayonnement est renvoyé vers la surface. On a un ensemble de boucles de rétroaction qui façonnent la réponse du climat, qu'on comprend de mieux en mieux depuis les années 1960 et qui implique le profil de température dans l'atmosphère, la vapeur d'eau, les surfaces enneigées et englacées, la quantité de chaleur qui rentre dans l'océan. Donc sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, l'excès de chaleur, notamment dû à l'augmentation de l'effet de serre, s'accumule dans l'atmosphère, 1% de l'excès de chaleur en plus, 3% est converti en recul du manteau neigeux, fonte généralisée des glaciers, dégel des sols gelés, recul du Groenland par fonte et perte de masse de l'Antarctique par glissement plus rapide dans des secteurs où les parties flottantes fondent à l'interface avec un océan plus chaud. Et le gros de la chaleur qui ne part plus vers l'espace s'accumule dans l'océan, près de 90%. Donc ce rôle d'accumulateur modère le réchauffement à la surface de la Terre et en même temps le rend irréversible à la durée de temps de mélange des masses d'eau dans l'océan qui est de l'ordre de siècles. Donc on observe des changements qui touchent tous les compartiments du système climatique, l'atmosphère, l'océan, la cryosphère et les terres émergées. Et une des conséquences de la fonte des glaces continentales, ainsi que du réchauffement de l'océan, c'est la montée du niveau de la mer, dont le rythme accélère, notamment du fait d'une perte de masse croissante du Groenland et de l'Antarctique depuis les années 1990, passant d'un rythme de 2 mm par an dans les années 90 à maintenant un rythme de l'ordre de 4 mm par an. Donc là, on discerne mathématiquement une accélération, ce qui n'est pas le cas pour d'autres aspects des caractéristiques climatiques. Ensuite, on peut situer ces changements récents dans leur contexte. Par exemple, le recul de la glace de mer à la fin de l'été, par rapport aux informations que l'on tire, notamment des sédiments marins et d'autres informations, nous montre que ce recul est inédit sur plus de 1000 ans. Le recul généralisé des glaciers est inédit sur plus de 2000 ans, parfois davantage dans certaines régions. L'augmentation du rythme de montée du niveau de la mer, 20 cm de plus depuis 1900, est inédit depuis plus de 3000 ans. Le rythme de réchauffement de l'océan de surface est inédit sur plus de 11 000 ans. Donc on sort en fait pour l'océan de la plage de l'Holocène. Le contenu lui-même de chaleur de l'océan augmente de manière inédite par rapport au climat glaciaire. Et l'acidification de l'océan est inédite sur plus de 2 millions d'années. Si l'on revient sur l'indicateur changement de température à la surface de la Terre, vous avez en gris la plage de reconstruction à partir des archives naturelles du climat qui nous donne une résolution fine, les cernes d'arbres, les glaciers, les informations que l'on tire des coraux, des sédiments de lacs et d'autres archives, reconstituées continent par continent à la surface des bassins océaniques et agglomérées à l'échelle planétaire. Donc vous voyez la rupture que représente le niveau et le rythme actuel de réchauffement par rapport à la variabilité des derniers 2000 ans. Vous voyez également qu'on est en train de sortir de la plage, de la température de la période la plus chaude sur plusieurs siècles de l'Holocène, du début de l'Holocène, qui est représenté ici en vertical. Enfin, à droite, vous voyez un exemple d'étude d'attribution qui va confronter la température observée en noir avec un ensemble de simulations à l'aide de modèles de climat à base physique qui démarrent avec un état initial aléatoire au cours du dernier millénaire et qui ne tiennent compte que des facteurs naturels, activité du soleil et des volcans. Rien n'explique l'accumulation de chaleur, ni ces facteurs naturels, ni en fait la variabilité spontanée du climat. À l'inverse, quand on tient compte des facteurs humains, donc rejet de gaz à effet de serre, en partie contrebalancé par l'effet refroidissant des particules de pollution, vous voyez que la plage simulée recoupe le changement de température observé en noir. Et ce type d'approche, on va le généraliser spatialement en cherchant en fait l'empreinte de la réponse du climat à chaque facteur sur tous les observables disponibles. La conclusion en ce qui concerne la température à la surface de la Terre, si on prend la dernière décennie 2014-2023, un réchauffement qui atteint 1,2 degré, et le réchauffement attribuable aux activités humaines est égal au réchauffement observé. Le réchauffement attribuable aux gaz à effet de serre est plus élevé et il est contrebalancé par l'effet de refroidissement dû aux particules de pollution. Vous noterez que la plage d'incertitude est plus grande sur ce volet-là, particules de pollution, que le reste. Enfin, si vous regardez la figure de droite, elle vous montre la tendance au réchauffement attribuable aux activités humaines, qui, si l'on va jusqu'en 2023, atteint maintenant 1,3 degré. Et vous voyez qu'en réalité, d'une année à l'autre, c'est modulé par la variabilité spontanée du climat, notamment lorsqu'on a des événements La Niña, on a tendance à avoir des années plus fraîches. Lorsqu'on a des événements El Niño, comme en 2023-2024, cette variabilité naturelle se superpose aux tendances dues à l'influence humaine. Et du coup, ça rend compliqué pour certains observateurs de donner sens aux observations récentes. Donc au début des années 2010, certains suggéraient qu'il y avait un hiatus et plus de réchauffement, alors que le contenu de chaleur continuait à augmenter dans l'océan, que les extrêmes chauds continuaient à s'amplifier sur les continents, mais une succession d'événements La Niña masquait, en fait, temporairement, les conséquences de l'influence humaine sur la température planétaire. À l'inverse, 2023-2024, certains vont se dire « c'est hors de contrôle, on a une accélération de la réponse du climat », alors qu'on le comprend comme la superposition de ces événements, La Niña et d'autres modes de variabilité naturelle, à cette tendance due à l'influence humaine. Et ce point-là est important à expliquer. Alors si on prend l'ensemble des indicateurs de l'état du climat, pour l'atmosphère, le cycle de l'eau, l'océan, tout ce qui est enneigé, englacé, la cryosphère, des caractéristiques du cycle du carbone, l'amplification du réchauffement au-dessus des continents, vous pouvez voir en fait le résultat des études et du degré de confiance sur les observations qui va du blanc au noir en fonction du degré de confiance, qualitatif et quantitatif. Et vous voyez le diagnostic sur le rôle de l'influence humaine sur les tendances observées, toujours plus fort sur ce qui est lié au bilan d'énergie, toujours plus délicat sur ce qui va toucher au cycle de l'eau, parce qu'il y a des effets dynamiques qui se superposent, encore incertains du côté de la perte de masse de la calotte antarctique, avec des éléments probants qui sont parfois partiels, et un degré de confiance moyen. Et au final, lorsqu'on prend l'ensemble des caractéristiques observées, on conclut aujourd'hui que le réchauffement du système climatique depuis la période industrielle est attribué à l'influence humaine, et c'est un fait établi. Alors, dans un climat qui se réchauffe, cela va affecter la probabilité d'occurrence, mais également l'intensité d'événements extrêmes, comme les extrêmes chauds. Donc vous avez là une représentation de la probabilité d'occurrence dans le climat pré-industriel et dans le climat actuel d'événements chauds d'intensité variable. Donc l'axe horizontal, c'est l'intensité. L'axe vertical, c'est la probabilité d'occurrence. Donc quand le climat moyen se réchauffe, l'événement de même niveau de température, par exemple une vague de chaleur à 30 degrés, devient beaucoup plus probable. De plus, des événements de température plus élevée, des vagues de chaleur à 40 degrés en France, 45 degrés en France et dans d'autres régions du monde, 50 degrés dans d'autres régions du monde déjà, qui étaient quasi improbables dans le climat pré-industriel, ont la possibilité de se manifester. Et donc ce type d'analyse forme la base de nouveaux types d'études d'attribution qui portent maintenant spécifiquement sur des événements extrêmes. Une synthèse des travaux disponibles est représentée ici pour les extrêmes chauds par région. WCE, c'est l'Europe de l'Ouest, MED, la Méditerranée, CAR, les Caraïbes ou PAC, les îles du Pacifique. Les hexagones en rose sont là où on discerne à l'échelle de ces régions, sur des études d'événements spécifiques, l'effet de dopage d'un climat plus chaud, donc des événements plus probables, plus intenses. Sur la figure du milieu, vous avez l'effet sur les sécheresses agricoles. Dans les régions de climat méditerranéen, il y a un effet de changement de circulation atmosphérique dans un climat plus chaud qui diminue la pluviométrie. Et dans beaucoup d'autres régions, vous avez l'effet d'un climat plus chaud qui dope l'évaporation, la transpiration, qui vide plus rapidement les sols lorsqu'il y a une période de manque de pluie et donc qui augmente en fait la sévérité des sécheresses. Enfin, en bas, vous avez les études d'attribution sur les pluies extrêmes, avec donc un climat plus chaud qui permet à l'atmosphère de contenir 7% de vapeur d'eau en plus par degré de réchauffement, Clausius Clapeyron de la physique solide, bien établi. C'est également ce que l'on observe et ce que l'on modélise, y compris dans des modèles qui résolvent maintenant des événements type nuages, orages. Et donc, ce que l'on observe, c'est une augmentation de la probabilité d'occurrence de pluies extrêmes, une augmentation de leur intensité. Cela concerne, par exemple, les records de pluies méditerranéennes qui ont augmenté en France d'environ 20% depuis les années 60. Et le signal est particulièrement fort du côté de l'Europe du Nord. Vous avez là deux projets de recherche, World Weather Attribution, qui publie des études d'attribution rapide ancrées sur ces méthodes qui ont récemment porté sur l'ouragan Helene, l'ouragan Milton, par exemple. Et avec Climameter, des études simplement rapides d'analogues de circulation atmosphérique qui ont analysé la tempête Kirk ou la tempête Boris qui ont touché l'Europe récemment dans ce cadre-là. Alors, un climat qui change, ça va affecter ce type de facteurs climatiques qui sont générateurs d'impact. Et ces aléas vont interagir avec l'exposition. En France, on a 10 millions de maisons sur des sols argileux, on a construit beaucoup de logements en plaine inondable. On a également des effets d'îlots de chaleur urbains qui augmentent en fait l'exposition à ces chaleurs extrêmes. Cela va interagir aussi avec les vulnérabilités humaines, les vulnérabilités à l'échelle des communautés, des sociétés. Et c'est en fait l'interaction entre ces vulnérabilités, cette exposition et ces aléas qui forge en fait les impacts observés et les risques à venir. Les risques à venir vont dépendre aussi des capacités de réponse. Dans le monde, on a 3,5 milliards de personnes dans des contextes de vulnérabilité élevés au changement climatique, avec déjà la moitié de la population mondiale qui fait face plusieurs semaines, plusieurs mois par an à de graves pénuries d'eau. Ça a concerné Mayotte, ça a concerné les Pyrénées orientales près de nous. Et on a des enjeux de plus en plus aigus sur notamment la gestion des eaux profondes face à ce climat qui change, qui augmente la demande en eau avec un renouvellement contraint. Ce changement climatique s'ajoute aux autres pressions sur les écosystèmes, la destruction des habitats, la surexploitation, les pollutions locales ou les espèces invasives, et entraîne des dommages visibles. Donc en France, en 10 ans, la mortalité des arbres a doublé. On a 8 à 15% d'arbres dépérissants dans les forêts, notamment à cause des conditions plus chaudes, plus sèches. Et en 10 ans, on a perdu la moitié du puits de carbone forestier. La stratégie nationale bas carbone peine à boucler sur l'utilisation de la biomasse à horizon 2030. Donc la question de la gestion durable de la biomasse soutenable est aujourd'hui un point d'actualité direct en lien avec certaines conséquences du changement climatique. On a le 4e épisode de blanchissement des coraux cette année avec ce pic de chaleur lié à l'événement El Niño dans un climat plus chaud qui illustre aussi les conséquences, notamment des vagues de chaleur marines qui accroissent en fait le stress thermique sur les organismes, les écosystèmes marins. On a déjà perdu une partie du potentiel de prise de pêche durable dans les tropiques parce que la moitié des espèces étudiées se déplacent sur terre comme en mer. Et donc les animaux cherchent à conserver leur zone climatique favorable et se déplacent notamment des tropiques vers les régions tempérées, des régions tempérées vers les régions polaires. Donc on observe une généralisation d'impact et de pertes et de dommages qui touchent à des aspects critiques en fait de la sécurité humaine, en plus des écosystèmes, de leurs fonctions et des services dont nous dépendons. Donc cela concerne par exemple les risques des inondations concernant les dommages sur les infrastructures ou la production agricole. Cela concerne la disponibilité en eau, les rendements, la production agricole également, des effets directs et indirects, par exemple la chaleur pour la santé, mais aussi les déplacements contraints lors des inondations sur la santé, ou bien l'expansion des zones propices pour des vecteurs de maladies, notamment tiques, moustiques tigres, avec la dengue qui est maintenant en métropole, mais également ces petits culicoïdes, des moucherons qui s'installent en Europe à la faveur d'hivers plus doux et transmettent des maladies aux bovins, aux ovins, la fièvre épizootique hémorragique ou la fièvre catarrhale, avec encore une fois les exploitants agricoles en première ligne des risques climatiques. Donc à retenir, ces impacts s'amplifient. Ils sont dus à des facteurs climatiques générateurs d'impact, directs ou composites, qui vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement. En France, on a à peu près 2/3 des communes, des personnes qui sont dans des niveaux d'exposition forts ou très forts à de multiples aléas climatiques. Et dans un climat plus chaud, on a un cycle de l'eau plus intense et plus variable. L'ensemble des caractéristiques attendues s'est manifesté en France, métropole et outre-mer, sur la dernière. En 2023, avec une succession de vagues de chaleur à grande échelle, ça a touché la production agricole, la production d'hydroélectricité, la santé, les rendements de filières agricoles. Et puis 2023-2024, à l'inverse, des quantités records de précipitations qui ont entraîné, par exemple, des inondations très graves dans le Pas-de-Calais, mais en même temps des sécheresses historiques dans les Pyrénées-Orientales ou bien à Mayotte. Et enfin, par exemple, à Cayenne, en Guyane, on voit une augmentation des inondations chroniques à marée haute, qui est une des conséquences de la montée du niveau de la mer. Ou bien à Saint-Pierre-et-Miquelon, les records de niveau marin pour lesquels l'effet des tempêtes se superpose à la montée graduelle du niveau de la mer a entraîné une érosion importante et du repli planifié. Donc on commence à voir l'émergence des conséquences de la montée du niveau de la mer, qui est un des aspects extrêmement importants, qui va devoir mobiliser beaucoup de connaissances pour les réponses les plus adaptées dans chaque contexte sur les nombreux littoraux français. J'entendais ce matin, en fait, le président de la MAIF aux informations, hein, qui vous expliquait que vous allez payer vos assurances environ 10% de plus cette année. C'est une des conséquences de ces impacts qui s'aggravent, donc qui concernent la santé, notamment des personnes les plus fragiles, la production agricole, des vulnérabilités spécifiques, notamment celles des enfants, plus vulnérables à la chaleur, des enfants également dans les zones exposées aux inondations, qui perdent des chances de réussite lorsque les établissements scolaires ont un accès interrompu au moment des inondations. On voit qu'on a touché des limites de capacité dans la gestion de risques. On a la question de l'habitabilité de certains territoires, les villages qui ont été dévastés par des glissements de terrain à grande échelle récemment avec des pluies extrêmes ou des vidanges de la glacière, ou bien pour le littoral, des coûts croissants et des enjeux de limite à l'assurabilité aux États-Unis. Les risques incendies ou inondations ne sont plus pris en compte par les assureurs privés. En France, de nombreuses communes, comme les Sables d'Olonne et des centaines d'autres, peinent à trouver des assureurs privés. Si on n'a pas de mutualisation de risques, on a un risque très grave d'augmentation des inégalités territoriales liées aux inégalités d'exposition. À l'avenir, l'évolution future du climat, de quoi va-t-elle dépendre ? Elle va dépendre des choix qui seront faits en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de polluants, d'usage des terres. Elles vont dépendre aussi de la réponse du climat, du cycle du carbone, des puits naturels de carbone. C'est cela qui va façonner le niveau de réchauffement planétaire à venir. Et puis enfin, les risques vont dépendre de ce qui va être mis en place en termes de gestion de risque, d'adaptation, voire de maladaptation. Et ensuite, on a ces ensembles d'interactions avec les choix de société. La première incertitude sur l'évolution future du climat, c'est les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre à venir. Sur la réponse du climat, une des notions clés scientifiques, c'est la notion de sensibilité du climat. Avec toutes les boucles de rétroaction, si l'on double le niveau de CO2 dans l'atmosphère, à l'équilibre, quelle sera l'évolution de la température de surface ? Cette notion de sensibilité du climat, avec la meilleure estimation et la plage d'incertitude, a été construite notamment à la fin des années 70, et vous voyez l'évolution dans le temps lors de l'année de l'évaluation de la meilleure estimation et de la plage d'incertitude. Pour le dernier rapport du GIEC, pour la première fois, nous avons pu nous appuyer sur des travaux scientifiques qui ont construit un cadre permettant de combiner les informations issus de la compréhension de chaque boucle de rétroaction, les projections confrontées aux observations, donc les simulations historiques, et ce que cela nous apprend, l'étude des climats passés qui permet de mettre des bornes inférieures et supérieures, et enfin, cela nous a permis de contraindre la réponse des modèles de climat qui a une très large plage de réponse, et donc de donner moins de crédibilité aux modèles dont la réponse n'est pas cohérente, trop faible, ou trop forte avec ses autres sources de connaissances. Et donc maintenant, nous ne rapportons pas pour le climat futur ou le niveau de la mer, au niveau des indicateurs planétaires, le résultat brut de modèles du climat, mais leur résultat contraint par l'ensemble des sources de connaissances. Une des implications directes de la compréhension du climat et du cycle du carbone est représentée par cette courbe qui a l'air simple. Une relation quasi directe, linéaire, entre maintenant et le passé et 2050. entre le cumul des émissions mondiales de CO2 et le niveau de température planétaire. En fait, cela reflète des compensations entre des mécanismes non linéaires. Plus on met du CO2 dans l'atmosphère, moins le forçage radiatif augmente. Mais dans un climat plus chaud, la capacité notamment de l'océan à stocker de la chaleur, à stocker du carbone diminue. Donc ce résultat est le résultat de mécanismes qui se contrebalancent et qui montrent qu'en fait, ce qui va déterminer en premier lieu le niveau de réchauffement à venir, c'est le cumul des émissions mondiales de CO2 à venir. On a une responsabilité historique très lourde, en France comme dans les autres pays qui se sont industrialisés plus tôt, sur ce qui a façonné le niveau de réchauffement actuel. La bonne nouvelle que l'on a également, c'est que si on mettait toutes les émissions à zéro, ou si on parvient à les mettre à zéro en limitant l'ampleur du réchauffement jusque-là, on n'a pas, après cela, de réchauffement supplémentaire. Donc, quand on parle d'inertie, l'inertie n'est pas dans le fonctionnement du climat et sa réponse au forçage radiatif. Si on met les émissions de CO2 à zéro, dans l'état actuel de nos connaissances, dans une plage allant jusque 2 degrés, il n'y a pas de réchauffement supplémentaire. D'où vient l'inertie ? Bah, c'est l'inertie associée aux centrales thermiques, leur durée de vie, les chauffages à gaz, leur durée de vie, les véhicules thermiques et leur durée de vie. L'inertie, c'est celle de nos infrastructures, mais ce n'est pas celle pour la température du fonctionnement du climat. Plus le climat se réchauffe, plus cela devient incertain, notamment au-delà de 2050, plus 2 degrés. On sait qu'on aura une perte d'efficacité de la réponse naturelle des puits de carbone. On sait qu'on va perdre un quart de la surface des sols gelés sur 3 mètres de l'Arctique par degré de réchauffement. Qu'est-ce que cela impliquera éventuellement comme flux supplémentaire de gaz à effet de serre ? Reste à affiner. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est beaucoup plus faible que l'incertitude sur les émissions de gaz à effet de serre dues aux activités humaines. Cela peut être des boucles amplificatrices supplémentaires qui nous demanderont à nous d'être capables de réduire davantage, voire d'être capables d'enlever du CO2 de l'atmosphère et le stocker à long terme pour pouvoir stabiliser le réchauffement. Donc je reprends la figure du départ avec le code barre et les personnes nées à des moments différents, mais ça c'est la version initiale dans les rapports du GIEC. Donc différents scénarios qui sont examinés, ces scénarios illustratifs qui permettent de simuler la réponse du climat à l'aide de modèles sophistiqués dont les résultats sont contraints par les autres sources de connaissances. Cela nous permet aussi d'avoir des émulateurs, des modèles de climat simplifiés, que l'on peut ensuite appliquer aux centaines de scénarios socio-économiques développés dans d'autres communautés scientifiques et de les classer pour voir quelles caractéristiques donnent quels résultats sur l'évolution du climat et donc qu'est-ce qui serait nécessaire pour limiter le réchauffement à différents niveaux futurs. Les points importants à retenir, c'est que dans les scénarios type orange, extrapolation des politiques publiques actuelles, vous voyez que les émissions diminuent lentement, mais ne sont pas à zéro en fin de siècle. Ça veut dire que le cumul des émissions continue à augmenter et le climat continue à dériver. La courbe en jaune. Celle-ci va vers un réchauffement proche de 3 degrés en fin de siècle. Pour stabiliser le réchauffement, les courbes en bleu foncé ou bleu clair, il est nécessaire d'avoir une très forte baisse des émissions de CO2 et c'est au moment où elles deviennent nettes, zéro, que le climat se stabilise. Et net zéro, c'est pas la réponse des puits de carbone, hein. C'est nous, notre capacité à éventuellement contrebalancer des émissions résiduelles par une capacité d'élimination et de stockage qui est très incertaine. Il y avait un article dans Le Monde hier où la journaliste a trouvé une formule que je trouvais très bien, qui était le mirage du retour après un dépassement, donc la courbe en bleu clair. Donc si on veut revenir un petit peu en arrière après avoir dépassé un certain niveau de température, la condition clé, c'est être capable de faire une élimination à grande échelle de CO2 de l'atmosphère, dont on ne sait pas en fait quelle est la faisabilité technique, économique, environnementale, quels seront les coûts, mais on sait qu'on a un certain nombre de contraintes, notamment l'utilisation des terres liées à la forestation par exemple, qui crée ses propres risques. Dernier point à retenir, en cas de forte baisse des émissions, quand on passe d'une courbe jaune à une courbe bleue, bah vous voyez qu'on a les effets discernables au bout d'une vingtaine d'années avec un ralentissement du rythme de réchauffement. Donc ça illustre en fait hein, de quelle manière on interagit sur les décisions, ce que l'on met en place maintenant, avec le rythme de réchauffement à venir. Alors, on peut situer à la fois ces changements récents et ces projections à l'échelle géologique. Donc en haut, à nouveau, les reconstitutions de la teneur atmosphérique en CO2 passée. En bas, les estimations des changements de température de surface passée. Donc vous voyez que si on a un niveau de réchauffement qui est de l'ordre de 2 degrés autour de 2050, dans un scénario intermédiaire, ça veut dire qu'on sort complètement de la plage de l'intensité des différentes périodes interglaciaires du dernier million d'années, qu'on va vers un niveau de température qu'on a connu à la fin du Pliocène. Deuxième chose, la vitesse des changements est vraiment brutale. Lors des variations glaciaires-interglaciaires, le rythme le plus rapide, on estime qu'il était de l'ordre de 1 degré par 1000 ans. Et là, on est plutôt sur un ordre de vitesse qui pourrait être sur 150 ans, de l'ordre de 2 degrés. Vous voyez aussi à quel point cette vitesse compte. Et elle compte notamment parce que nos écosystèmes ont été le fruit d'une évolution façonnée par le rythme de ces variations passées et les mécanismes biologiques, d'où les enjeux croisés climat, écosystème, biodiversité et les réponses apportées pour donner les meilleures chances possibles à la diversité du vivant de subsister dans un climat qui change du fait de notre responsabilité. On peut aussi traduire chaque niveau de réchauffement planétaire sur les caractéristiques que cela aura, climat moyen en haut, pluviométrie moyenne en bas. Donc cette carte, en fait, elle montre la réponse de la circulation atmosphérique de grande échelle qui change et qui entraîne une diminution de la pluviométrie dans les régions de mousson, dans les régions méditerranéennes, dans un climat qui se réchauffe. Elle montre aussi l'effet humidifiant des gaz à effet de serre, mais il ne faut pas penser que le Sahara va devenir vert. La grosse tache verte, c'est un tout petit pourcentage, c'est une toute petite quantité de pluviométrie en plus, dans des endroits où la pluviométrie actuelle est proche de zéro. Donc ça apparaît comme une grosse tache verte, mais en valeur absolue, ce sont des changements faibles. Néanmoins, les gaz à effet de serre tendent à humidifier les pluies de mousson, tandis que les rejets de particules de pollution locaux, régionaux, ont un effet plutôt asséchant. Et ces effets contradictoires sont une forte incertitude sur le devenir régional des pluies de mousson. On peut également projeter les variations de température sur le jour le plus chaud de l'année, en haut. Et vous voyez autour de la Méditerranée, un endroit qui s'assèche, le couplage entre conditions plus sèches, surchauffe, et augmentation des extrêmes chauds. C'est l'une des régions où les extrêmes chauds augmentent le plus. Et ils augmentent même plus vite en Europe de l'Ouest que dans nos projections, à cause d'effets dynamiques qui nous interrogent sur l'information fiable que l'on peut fournir à la société. Au milieu, vous avez donc les zones en brun, qui seront des zones où l'humidité des sols va baisser à mesure du réchauffement planétaire. Donc c'est vraiment de l'aridification dont on parle, et qui concerne par exemple la région de l'Amazonie ou le sud de l'Afrique, ou les grandes plaines américaines, d'une manière très aiguë. Point important, donc pour des écosystèmes, par exemple du côté de la forêt amazonienne, il y a une double pression, la dégradation locale et puis l'aridification liée au changement climatique. Leur conjonction peut faire basculer ce type d'écosystème vers une savane, et on ne peut pas l'exclure aux alentours des années 2050. Enfin, en ce qui concerne le jour le plus pluvieux, dans toutes les régions, même celles qui s'aridifient, on va avoir une augmentation des précipitations sur le jour le plus pluvieux de l'année. Encore une fois, un 7% par degré de réchauffement. Et donc, on peut le traduire en disant, dans un climat qui se réchauffe, on a un cycle de l'eau plus intense, plus variable, avec une augmentation des saisons et des événements très humides et très secs, qui posent de multiples défis pour la gestion des risques d'inondation et la gestion des ressources en eau. Alors si on prend l'exemple de la chaleur extrême, l'événement qui se produisait une fois par 50 ans en climat pré-industriel dans le monde de chaleur se produit déjà 5 fois plus fréquemment. Son intensité a augmenté plus que le réchauffement moyen. Et vous voyez, à mesure du niveau de réchauffement planétaire, la probabilité d'occurrence de ce type d'événement qui augmente de manière démultipliée. À Paris, à horizon 2050, dans un monde 2 degrés plus chaud, on peut avoir la possibilité d'atteindre des températures à 50 degrés. C'est un exemple récent de travail de coproduction dans le cadre du groupe régional d'experts franciliens entre les services de la ville et l'interrogation des connaissances scientifiques. Alors vous le savez peut-être, mais le confort thermique des bâtiments aujourd'hui est toujours fait en les dimensionnant par rapport à la canicule de 2003. Dans le climat d'aujourd'hui, une canicule comme 2003 peut atteindre 4 degrés de plus. Donc le code réglementaire, y compris d'ailleurs pour les établissements scolaires, puisqu'on a également des canicules qui se produisent dès le mois de mai jusqu'au début de l'automne, le code aujourd'hui de construction n'est pas adapté au climat actuel et futur. De la même manière, les plans de prévention des risques d'inondation n'intègrent pas l'augmentation des pluies extrêmes avec le réchauffement planétaire. Donc l'université Paris-Saclay où je travaille a été inondée par un débordement de l'Yvette du côté d'Orsay. En fait, le dimensionnement des gros ouvrages qui ont été réaménagés pour limiter le risque d'inondation se sont faits en regardant les précipitations qui se représentent dans le passé tous les 20 ans, typiquement 50 mm. Et avec la tempête Kurt, on a eu 100 mm. Donc les capacités des ouvrages ont été dépassées. Donc vous voyez que j'esquisse l'enjeu de rentrer les connaissances scientifiques que l'on a sur des changements non stationnaires qui affectent les temps de retour et les enjeux d'adaptation transformatrice pour intégrer les caractéristiques à venir dans la prise de décision de sorte à renforcer la résilience des infrastructures, des bâtiments au fur et à mesure qu'on les construit, qu'on les rénove. Donc si on prend en fait la trajectoire possible de réchauffement planétaire sur la base des politiques publiques déjà en place, 2 degrés dans le monde vers 2050, ça veut dire en France de l'ordre de 2,7 degrés, c'est-à-dire que le climat moyen en France en 2050 atteindra les records de température déjà connus dans les années 2022-2023. Donc il faut se préparer à ce que seront les records dans le climat de 2050 à ce moment-là. Voilà, donc les enjeux, c'est changer d'échelle pour l'adaptation, c'est construire à partir d'une trajectoire de référence une information scientifique fiable qui puisse faire évoluer les référentiels qui sont aujourd'hui obsolètes pour nous protéger et renforcer la résilience dans un climat qui se réchauffe. Alors, on a un ensemble de risques clés qui augmentent à mesure du réchauffement planétaire. Là, c'est juste une carte qui montre les espèces animales exposées à des températures potentiellement dangereuses, mais on a d'autres facteurs. La montée du niveau de la mer, la perte d'oxygène d'un océan qui se mélange moins, les vagues de chaleur marine qui sont utilisées là, mais aussi l'acidification. Et bien sûr, une des implications, c'est comment mieux protéger les écosystèmes, comment réduire les autres pressions et donc comment mettre en œuvre des aires marines, notamment réellement protégées, sans chalutage profond, comment éviter d'utiliser les ressources sous-marines qui risquent de détruire les écosystèmes du fond de l'océan, un des enjeux de la conférence Océan de cette année, comment connecter les différentes aires protégées pour accompagner le déplacement des espèces et sur Terre, comment renforcer les corridors dans les zones agricoles, tout ce qui est bande fleurie et qui permet aux espèces de se déplacer, les trames vertes dans les villes. Donc cela fait partie des enjeux liés à ce climat qui change pour préserver les écosystèmes et la biodiversité. Si l'on regarde les risques pour les écosystèmes, le code de couleur va de jaune pour des risques modérés à rouge pour des risques sévères. On a des enjeux majeurs liés au niveau de réchauffement planétaire pour la structure des écosystèmes, les risques de perte de diversité biologique, de perte de carbone, et puis ça concerne tous les écosystèmes marins également. Et moi, j'en profite pour souligner l'importance de regarder dans chaque contexte quelles seront les contraintes liées à l'eau dans un climat qui se réchauffe, de tenir compte des besoins pour les écosystèmes et d'agir sur la demande en eau pour les activités humaines. C'est un défi majeur. De la même manière, la pression sur la biomasse s'ajoute en fait aux contraintes d'un climat qui se réchauffe. Et donc ça pose la question, vraiment encore une fois, de la capacité de tenir compte des écosystèmes dans une gestion soutenable, la résilience des forêts notamment. Donc aujourd'hui, on a un large portfolio de réponses qui peuvent permettre de stocker du carbone, qui peuvent permettre de renforcer l'adaptation, verdir les villes, s'appuyer sur les zones humides, restaurer les écosystèmes sur les littoraux. Mais plus le climat change vite, plus ces solutions qui s'appuient sur la nature seront contraintes. Et donc, on va perdre, nous, des cordes à notre arc de réponse. D'où l'importance de limiter le réchauffement pour garder un maximum de solutions d'adaptation disponibles. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la baisse du potentiel de prise de pêche. On s'attend à ce qu'elle continue à diminuer en rose dans les régions tropicales. Et l'Arctique, comme l'Antarctique, sont des sources croissantes de tensions par rapport au positionnement de pêcheries, critique pour l'approvisionnement en protéines, en nutriments dans certaines régions du monde. On sait que sur la base des espèces cultivées actuellement, on va toucher à des limites de seuil de rendement et ensuite de chute de rendement dans certaines plages de température. Et donc on voit qu'on touche à des aspects critiques sur l'évolution de la production alimentaire dans un climat qui se réchauffe, avec des risques de plus en plus complexes, par exemple revenus pour ceux qui travaillent dans la production agricole, disponibilité, coût de l'alimentation, qui peuvent toucher à des risques d'insécurité alimentaire. Donc c'est pour ça qu'on parle de risques de plus en plus complexes, où l'effet sur la capacité de travail physique, la capacité de revenus pour acquérir son alimentation, peut saper en fait la sécurité alimentaire et faire des pièges de pauvreté, notamment par la malnutrition maternelle ou infantile dans certaines régions du monde. On est sur des enjeux de justice climatique, je ne l'ai pas dit explicitement, mais vous l'avez compris. 10% à 15% des personnes dans le monde pèsent pour la moitié des émissions de gaz à effet de serre. La moitié de la population dans les contextes hautement vulnérables n'a quasiment pas émis de gaz à effet de serre historiquement ou très peu par habitant aujourd'hui. On a également les jeunes enfants d'aujourd'hui qui, ne serait-ce que sur l'exposition aux extrêmes chauds, seront exposés entre 4 et 7 fois plus au long de leur vie que des générations nées dans les années 1960. C'est une illustration des enjeux de justice climatique entre générations. Donc je reviens sur les enjeux d'insécurité alimentaire qui vont dépendre à la fois du niveau de réchauffement planétaire, mais aussi des choix socio-économiques. Si on permet aux exploitants agricoles, aux petits producteurs de sortir de la pauvreté, qu'on renforce leur capacité d'adaptation, qu'on favorise des systèmes alimentaires résilients à faible émission, si l'on fait évoluer la demande alimentaire avec moins de protéines animales, plus de protéines végétales, on réduit les pressions sur les terres, on protège le foncier agricole, on peut limiter les risques. À l'inverse, l'augmentation des inégalités, une demande très forte pour la viande, pour les protéines animales, pour les huiles végétales, de la partie la plus riche de la population mondiale, si elle s'ajoute à de faibles capacités d'adaptation des petits exploitants agricoles dans le monde, et de nouvelles pressions sur les terres, par exemple pour de la biomasse pour l'énergie ou de la forestation, qui peut réduire en fait l'utilisation des terres à vocation alimentaire, cela peut augmenter les risques liés au changement climatique, d'où les enjeux de transformation des systèmes alimentaires. Alors je parlais de la montée du niveau de la mer, je le mets dans les risques clés d'habitabilité. Donc une montée du niveau de la mer de 20 cm depuis 1900, des projections à horizon 2050 assez certaines, indépendamment des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, notamment par le temps d'ajustement des glaciers de l'océan des Calottes. À horizon 2100 et pour les siècles suivants, premier facteur d'incertitude, le pic de réchauffement, les niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, on va du simple au double à horizon 2050 et plusieurs mètres d'écart à horizon 2150, 2300 et au-delà. Et enfin, deuxième source d'incertitude, les processus incertains des calottes de glace, avec une incertitude profonde. C'est-à-dire, on sait qu'ils peuvent se produire, on les représente mal dans les modèles, on n'a pas nécessairement confiance dans les modèles existants, et on a des évidences de climat passé, de montée importante du niveau de la mer. Donc, à partir de là, ce qui nous a été demandé, en fait, c'est de fournir une trajectoire haute, physiquement plausible, si ces processus associés à un degré de confiance faible, qui ne sont pas dans les autres projections, se réalisent. Donc c'est la courbe en pointillé en rouge qui va jusqu'à 1,50 m de montée du niveau de la mer à horizon de la fin du siècle. Et ce type d'information, il est important pour les infrastructures critiques à longue durée de vie, sachant que pour d'autres aspects, il va falloir construire sur les littoraux des trajectoires de réponse dans le temps, où à court terme, on peut jouer sur les écosystèmes, les sédiments, la mise en protection, mais il y a une limite en fait aux capacités de ces réponses qui peuvent retarder un peu les risques. Les infrastructures en dur, les ouvrages de protection comme sur la Tamise, les digues, il faut les penser pour pouvoir les réactualiser. C'est coûteux, ça va mettre des dizaines d'années à être déployé. Ce ne sera fait que là où il y a une valeur élevée du foncier. Et donc, dans les autres contextes, réduire le risque, c'est ne plus aménager dans les zones exposées à la montée future du niveau de la mer et planifier le repli stratégique, ce qui pose en fait des questions de compétences, de ressources, de modalités de délibération et de séquençage dans le temps qui ne vont faire que monter en puissance au cours des décennies à venir. Et dernier volet sur cet aspect-là, les connaissances que l'on a des climats passés, elles sont cohérentes avec les outils de modélisation dont on dispose. Pour un pic de réchauffement autour d'un degré et demi, on a les contraintes qui viennent de la dernière période interglaciaire et qui montrent typiquement sur plusieurs milliers d'années une plage de réchauffement de l'ordre de 5 à 10 mètres, de montée du niveau de la mer de 5 à 10 mètres. Pour un pic de réchauffement autour de 3 degrés, on a les contraintes qui viennent des périodes chaudes du Pliocène et qui montrent sur plusieurs milliers d'années un ajustement de la montée du niveau de la mer qui peut atteindre de l'ordre de 10 à 20 mètres à cette échelle de temps. Et ça, ce point-là, il est important. En permanence, on utilise les climats passés comme des bancs d'essai pour les modèles de climat, les projections de montée du niveau de la mer. Et c'est un aspect essentiel, pour moi, de la confiance que l'on accorde aux projections à long terme. On a déjà acté un mètre de montée du niveau de la mer par l'ajustement aux émissions de gaz à effet de serre jusqu'à aujourd'hui. Mais sur le temps long, l'ampleur et la vitesse à venir va dépendre des émissions à venir, mais aussi de ce qui va se passer sur les processus incertains des calottes. Donc à retenir en Europe quatre risques clés liés à la montée du niveau de la mer, les extrêmes chauds pour la santé des écosystèmes, les risques de perte de production agricole, 2024, année noire hein, pour la production de céréales, de production viticole et autres, déjà. Les situations de pénurie d'eau, et pas seulement les sécheresses, hein, c'est quand le débit du Pô ou du Rhin est très bas. Là, ça affecte toute l'activité économique sur de grands bassins versants. Et puis un ensemble de risques d'inondation, parce qu'on a soigneusement positionné au cours de l'histoire nos villes et nos infrastructures le long des cours d'eau et le long du littoral. Des risques spécifiques pour les petites îles, y compris d'habitabilité, qui concernent les territoires d'outre-mer. Et donc un des aspects clés, c'est bien sûr on a une capacité d'adaptation, on ne sait pas évaluer le coût des dommages, on ne sait pas évaluer ce que sera le coût de l'adaptation à venir. Chaque année, on investit en France de l'ordre de 50 milliards d'euros d'argent public sur des infrastructures sans y intégrer l'adaptation. On sait que ça peut être quelques pourcents en plus et qu'on a besoin de changer d'échelle pour avoir une adaptation qui sera réellement transformatrice et qui nous rendra plus résilients au climat à venir. Mais c'est clair qu'il y aura des limites partout et donc limiter le réchauffement, c'est essentiel pour limiter les risques. Les géosciences, elles nous montrent les deux conditions clés pour limiter le réchauffement. Réduire les émissions de CO2 jusqu'à atteindre net zéro sur les émissions dues aux activités humaines avec le cumul le plus bas possible. Et vous voyez les trajectoires en vert, en bleu, correspondant à une limitation du réchauffement largement sous 2 degrés, proche de 1,5 degré. Donc un rythme, cette décennie de baisse, de l'ordre d'un quart à 50%. Hein. Vous voyez les ordres de grandeur. Et deuxième condition, stabiliser l'effet des autres facteurs, particules, autres gaz à effet de serre. Et là, ce qui joue un rôle fondamental, c'est fortement réduire les émissions de méthane, typiquement d'un tiers à horizon 2030, de moitié à horizon 2100, dans un contexte où, suite aux enjeux de sécurité d'approvisionnement énergétique, on a des investissements croissants dans l'exploitation et les infrastructures de gaz naturel liquéfié. C'est un défi colossal. Les techniques par satellite, maintenant, elles peuvent permettre de suivre des fuites de méthane de grande échelle dans le secteur des énergies fossiles. On a des outils qui peuvent permettre aussi de suivre les fuites de méthane de méthaniseurs et qui devraient être déployés rapidement de sorte à s'assurer d'éviter au maximum ces émissions fugitives et le reste, c'est des transformations plus profondes. Donc on a un potentiel technique qui peut permettre de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre rapidement avec les leviers technologiques disponibles aujourd'hui, en jouant sur la demande, efficacité, sobriété, et en s'appuyant sur les écosystèmes, les solutions dites fondées sur la nature, mais les conditions sont les compétences, les priorités des sociétés, la mise en œuvre opérationnelle efficace, la réorientation des financements, penser sous forme de transition juste, y compris sur la réorientation professionnelle, hein, des secteurs amenés à disparaître vers les compétences pour les nouveaux secteurs, en tenant compte des effets redistributifs sociaux et en prenant en compte les différentes dimensions de soutenabilité. Donc, je ne vais pas développer ces aspects-là, mais dans les rapports du GIEC, vous trouverez en fait une évaluation des à court terme, cette décennie, pour chaque grand système, énergie, usage des terres, alimentation, eau, les leviers d'adaptation dont on sait qu'ils fonctionnent, le potentiel, la taille de la barre et le coût pour les leviers qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, les énergies renouvelables, par exemple, l'énergie bas carbone nucléaire. Et vous voyez, par exemple, un petit potentiel captage et stockage de carbone fossile avec un coût élevé. Il faut aussi rappeler le mirage qui est souvent mis en œuvre par les acteurs des énergies fossiles, qui misent sur des capacités d'abattement qui ne se traduisent pas en fait, hein, par des investissements à l'échelle de ce qui est miroité pour faire croire qu'on peut continuer à utiliser des énergies fossiles en les découplant des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a des enjeux pour les villes, les infrastructures, les mobilités, par exemple l'électrification des véhicules, parmi d'autres leviers d'action comme les mobilités actives ou les transports en commun. Peu de solutions à court terme pour décarboner le transport aérien ou le transport maritime, ce sont des défis colossaux, et des enjeux d'efficacité, d'économie circulaire, notamment pour la partie industrie et déchets. Et je veux terminer sur ces enjeux-là. J'ai parlé d'énergie renouvelable, d'énergie bas carbone, notamment électricité. J'ai parlé de batteries, notamment pour la mobilité. Et j'ai parlé de processus industriels. Et ce sont de nouveaux défis, parce qu'en fait, les technologies bas carbone, que ce soit les réseaux pour l'électricité, les batteries, l'hydrogène, les renouvelables et le nucléaire, vont augmenter la demande pour un certain nombre de minéraux critiques, le cuivre, le lithium, le nickel, le cobalt, le graphite ou certaines terres rares. Et là, je me suis appuyée sur le rapport du panel des Nations Unies sur les ressources et de la prospective de l'Agence internationale à l'énergie 2024, qui souligne l'augmentation de la demande, qui peut être très forte, hein, si on renforce le déploiement de ces nouvelles technologies bas carbone, et d'autre part, les risques identifiés en termes d'approvisionnement à horizon plutôt ici au-delà de 2030, et également les nouveaux risques géopolitiques qui sont liés en fait à des productions parfois critiques uniquement dans certaines régions du monde. Et donc à nouveau, les géosciences vont faire partie en fait des aspects fondamentaux pour répondre à ces défis de transition, à la fois en valorisant une approche de sobriété, de recyclage, les défis d'efficacité en matériaux, en processus industriel, de sorte à ne pas continuer à alimenter un développement économique qui augmente l'utilisation des ressources, mais qui permet au maximum de valoriser les approches sobres par rapport à la demande notamment de biomasse, d'eau et de ces nouveaux minéraux. Je termine donc en soulignant à quel point on est sur une étroite fenêtre pour construire un développement qui soit résilient face au climat, sobre en carbone. Choc de pandémie, choc de crise démocratique, choc de conflit, c'est un enjeu majeur en fait d'arriver à articuler les urgences de court terme et puis les transformations de long terme, en gardant en tête finalement les enjeux qui sont des transitions de système, des transformations de société, l'équité, les différentes dimensions de la soutenabilité, pas simplement l'action climat, le fait de sortir les personnes de la grande pauvreté, qui est une des premières priorités d'un développement qui soit soutenable. Cela passe aussi, bien sûr, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce sont des enjeux qui vont se présenter continuellement pour vos élèves, tout au long de leur parcours personnel, professionnel, qui demande en fait de former des citoyens éclairés, avec esprit critique, capables de discerner la désinformation, de chercher des sources fiables sur des sujets qui vont être en fait polémiques à chaque fois qu'on va avoir ces transformations. Et ça demande aussi des compétences pour répondre aux défis de ces transformations de société. Et je termine en vous laissant les ressources sur lesquelles je me suis appuyée, les 7 kilos de rapport du GIEC de 2018 à 2023, les ressources pour les enseignants développées à partir de ces rapports par l'Office pour l'éducation au climat, un outil pour interagir directement avec les rapports du GIEC type ChatGPT en langage courant, et puis les rapports du Haut Conseil pour le climat qui suivent l'efficacité des actions menées en France pour l'adaptation et pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Merci.
Merci beaucoup pour ce panorama général important. Madame Valérie Masson-Delmotte, je vais laisser tout de suite, on va prendre quelques minutes pour un échange. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et puis on écoutera Yves Lagabrielle juste après. Moi, j'ai des questions, mais ce n'est pas forcément les plus intéressantes. Je pense que c'est les vôtres qui comptent. Néanmoins, pour lancer peut-être l'échange, vous avez parlé de la nécessité de former une nouvelle génération de personnes aux géosciences. Je me pose une question, je me mets à la place peut-être des enseignants ou des enseignantes qui doivent présenter des sujets d'une grande complexité, des sujets aussi qui sont source peut-être d'éco-anxiété. Le terme est à la mode, mais il renvoie probablement à une réalité. Quel conseil vous auriez spontanément envie de partager à destination de celles et ceux qui sont dans la position de ces enseignantes et de ces enseignants, de partager des contenus, de l'information scientifique avec de la complexité à gérer et puis des mauvaises nouvelles à annoncer?
En fait, ce n'est pas des mauvaises nouvelles, c'est juste la réalité.
Oui, mais c'est une réalité, la réalité pas très positive.
La réalité, c'est important de l'enseigner, de donner des repères pour le comprendre. Évidemment, moi, le premier point qui me semble important, c'est à partir d'études de cas ou d'exemples, initier à ce qu'est la démarche scientifique en géosciences sur des systèmes complexes où on a des interactions entre les sociétés humaines et le système Terre. Et surtout la démarche scientifique, comment arriver à comprendre à quel point c'est différent de l'expression d'opinion et à quel point cela peut permettre d'éclairer aussi les délibérations de société, ça c'est la première chose. Après, on peut imaginer construire également des enseignements sur des études de cas qui permettent, à partir de la curiosité, de l'envie de comprendre sur un cas particulier, d'ouvrir en fait et d'arriver à mieux situer certaines interrogations de société, par exemple, des sujets qui peuvent être polémiques, d'arriver à mieux situer finalement pourquoi est-ce que ça pose question, quelles sont les contraintes, quelles sont les limites, quelles sont les transformations profondes à l'œuvre. Après, vous posiez la question en fait de l'éco-anxiété. On ne pose pas la question des enfants qui n'ont pas classe lorsqu'il y a des vagues de chaleur, dans des écoles pas du tout adaptées, des enfants qui n'ont pas accès à leurs établissements scolaires situés en zone inondable. Pour moi, ça, c'est une vraie perte de chance. Et donc, il faut arriver aussi à regarder les différentes dimensions de la manière dont le changement climatique nous concerne. Si c'est en fait paralysant par procuration, c'est ce qu'est l'éco-anxiété, c'est aussi une forme d'empathie. Donc, il faut arriver à en sortir le côté positif, l'empathie. Et il faut arriver à nuancer le sentiment d'impuissance qui nourrit l'anxiété par le fait de montrer quels sont les leviers d'action. On peut aussi se dire qu'on peut raconter l'histoire des émissions de gaz à effet de serre en France comme une réussite, c'est-à-dire qu'on a déjà réussi à réduire les émissions de gaz à effet de serre sur notre territoire, notamment dans les années 70, sortie du charbon, nucléaire, hydroélectricité. On a réussi à construire une baisse des émissions territoriales sur ces dernières années. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui bloque? C'est intéressant de s'appuyer aussi sur ce type de retour d'expérience pour montrer ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Et enfin, par rapport à ce qui reste à faire, un travail sur les différents leviers d'action, sur le potentiel, les limites, les effets, les co-bénéfices, par exemple, en termes de santé, d'approches qui permettent d'améliorer le fonctionnement de nos sociétés. C'est vraiment intéressant parce que ça montre la multitude de réponses possibles et qui sont importantes. Après, il y a toute la dimension géopolitique qui est aussi intéressante sur les jeux d'acteurs entre pourquoi certains vont avoir une forte envie de ralentir ces transformations de société par rapport notamment à la dépendance de certains États aux énergies fossiles, par rapport à leur dépendance à des formes d'agriculture qui sont associées à la destruction d'écosystèmes, l'exportation de viande. Et arriver à donner à voir en fait ces rapports de force, c'est aussi intéressant pour mieux comprendre les obstacles et les difficultés.
Ça, d'un point de vue pédagogique, ça plaide, j'imagine, dans les classes pour plus de pluridisciplinarité et de liens entre l'enseignant en géosciences et puis l'enseignante ou l'enseignant en géographie.
Histoire-géographie, bon, typiquement,
c'est peut-être des choses qui permettent de redonner du contexte sur ce dernier point.
On peut aussi faire des choses en mathématiques, hein, sur les aspects linéaires, pas linéaires, les extrêmes, qui peuvent être vraiment intéressants, ou même sur le cycle du carbone, stock et flux. Il y a des choses qui sont vraiment intéressantes à faire pour bien différencier la compréhension des stocks et des flux, qui reste un défi en fait important en termes de compétences en fait. Hein.
Une question, monsieur. Alors je vais venir à vous parce que, à moins que mademoiselle, madame, je veux bien que vous donniez le micro, c'est gentil, merci beaucoup, à la personne qui lève la main juste là. Juste un mot pour dire si vous êtes enseignant vous-même ou voilà votre statut.
Bonjour, je suis professeur de SVT de l'Académie de Versailles. Bonjour madame, j'aurais sans doute plein de questions à poser, tant il va me falloir un peu de temps à digérer tout ce que vous venez de dire, parce que, mais il y en a une qui me trotte dans la tête depuis le début de cette journée, et elle a été d'ailleurs présentée en propos préliminaire par monsieur Moulet entre autres, c'est sur le climato-scepticisme. Alors on parle des élèves, je fais référence, je pense d'ailleurs à mes élèves actuellement, que mes élèves ou que les élèves comprennent mal les enjeux de la question climatique, vu la somme de compétences et de connaissances qu'il faut acquérir, je peux le saisir, moi en tant qu'enseignant. Mais je m'interroge vraiment en fait sur ce qui pousse des adultes, des personnes volontairement climato-sceptiques continuer à diffuser un discours qui va à l'encontre totalement de ce que vous venez de démontrer.
En ciblant les jeunes de plus en plus, d'ailleurs, sur des vidéos YouTube. Oui.
Voilà, c'est un peu le vidéo, etc. Moi, juste je suis très sensible à ça. Et du coup, la question, c'est est-ce que vous qui êtes scientifique ou le GIEC ou d'autres organismes, est-ce qu'il existe en fait des structures qui s'intéressent à la mécanique en fait qui construit ce discours et comment nous on peut y accéder après en tant qu'enseignant?
Alors voilà, c'est un travail notamment d'historien des sciences, d'observateur du débat public, des méthodes d'analyse aussi sur les réseaux sociaux qui construisent les bases de la compréhension de ce discours, on va dire. Je recommande la lecture du livre de Naomi Oreskes, Marchand de doute, sur le rôle tragique qu'ont joué un certain nombre d'entreprises, notamment du secteur des énergies fossiles, dans les années 80, dont la propre recherche montrait qu'ils comprenaient parfaitement les enjeux, au meilleur niveau par rapport aux sciences du climat de l'époque, et qui ont choisi sciemment en fait, de payer des mercenaires, des think tanks et tout le reste, pour en fait retarder la réglementation publique et maintenir en fait le retour sur investissement. Donc ça continue. Donc le climato-scepticisme, on va dire degré 1.0, c'est le suivant. Le climat change pas, c'est pas dû aux influences humaines, c'est pas grave, ça changera pas beaucoup à l'avenir et les impacts seront mineurs. La réalité, c'est quand même un contre-exemple assez net. Donc on peut aussi reprendre ces discours et les confronter à la réalité vécue. Voilà. La deuxième forme, le climato-scepticisme 2.0, c'est saper la délibération démocratique, notamment en clivant sur chaque levier d'action, pour ou contre le nucléaire, pour ou contre les renouvelables, pour ou contre le cobalt, pour les batteries et tout le reste. Et là, en fait, le but, c'est paralyser les personnes de sorte à retarder finalement la bascule vers de nouveaux systèmes énergétiques, vers de nouvelles formes de mobilité et tout le reste. C'est insidieux. C'est analysé notamment par David Chavalarias, Toxic Data, qui montre en fait les méthodes d'influence utilisées sur les réseaux sociaux. On pourrait aussi parler des chaînes du groupe Bolloré, qui délibérément propagent en fait une propagande climato-sceptique d'une manière très volontariste. Donc derrière ça, il faut faire un travail sur les valeurs. Donc, dans certains cas, il y a vraiment des intérêts économiques particuliers qui font que ces transitions sont perçues comme dangereuses pour ses propres intérêts. Et donc, c'est vraiment le sentiment d'être le dos au mur et de créer cette désinformation parce qu'il faut gagner du temps. Ces secteurs-là ne savent pas se transformer. D'accord ? Ensuite, il sape aussi parfois l'information fournie au gouvernement. Après, le deuxième volet, c'est des styles de vie extrêmement émetteurs, de personnes extrêmement riches, qui ne veulent pas remettre du tout en cause leur train de vie, qui comprennent bien les enjeux de redistribution, les inégales contributions aux émissions de gaz à effet de serre et qui vont tout faire pour maintenir leur propre intérêt. y compris aux États-Unis, en finançant tout un tas de recherches sur des idées complètement délirantes de géo-ingénierie, comme une forme de distraction. C'est-à-dire, on va mettre ça en pâture, les scientifiques, on va les payer pour travailler là-dessus, on va faire parler de ce sujet-là, et c'est une distraction. Et là, on voit en fait des collusions, notamment des « philanthropes », entre guillemets, qui bénéficient des énergies fossiles et de la tech, avec une vision très « garder notre style de vie et ne pas transformer les sociétés ». Et après, donc, le dernier volet, c'est les valeurs enracinées. On est un pays vieillissant. On a des personnes qui ont grandi en construisant leurs valeurs, leur vision des choses, sans l'influence humaine sur le climat, qui n'arrivent pas à l'entrée. Parfois, pour qui c'est perçu comme extrêmement culpabilisant. Et tout ce qui est culpabilisant conduit au rejet. Donc on a construit un développement économique sur une croissance axée sur la consommation, sans s'intéresser au devenir des déchets, globalement. Donc renverser cela, s'interroger sur les pratiques, les styles de vie, la consommation, en fait ça peut créer des conflits de valeurs pour les personnes qui du coup vont juste se mettre dans des bulles d'informations rassurantes, donc visant à dire que tout ça est un complot géant et qu'il n'y a aucun enjeu à changer rapidement. Et ça c'est le dernier volet qui est important à comprendre.
Juste monsieur, pour préciser, merci beaucoup pour ces éléments de réponse très complets. Vous avez vous-même dans votre classe ou dans vos classes des cas concrets d'élèves dont vous diriez qu'ils véhiculent ou partagent un certain nombre d'idées climato-sceptiques ?
Bah, ils baignent dedans en fait, malgré eux.
Ma question c'est, est-ce que vous avez déjà dans un cours entendu un enfant, un collégien, une lycéenne partager, relayer des informations fausses sur le climat?
Non, pas au sein de, pas parmi mes élèves.
Bah moi oui, en intervenant dans des classes. Hein.
Mais parmi mes collègues.
Mais vos collègues, oui. D'accord. Oui. Non mais c'est, votre témoignage est important. Et là, d'un coup, peut-être que des personnes se sentent concernées également dans la salle. Une autre question à Valérie Masson-Delmotte ou un...
En fait, on peut aussi le prendre en disant quelles sont les idées reçues qui circulent. Et comment former notamment les enseignants pour pouvoir y répondre. Et c'est l'exercice que l'INSU au CNRS avait fait, notamment qui a donné lieu à un livre, Tout savoir sur le climat ou presque, mmh. qui est une sorte de roman graphique, où au départ, en fait, on a collecté les idées reçues récurrentes, qui sont des arguments, on va dire, de désinformation hein, qui circulent. Et c'est ancré dans l'état des connaissances des chercheurs du CNRS, une réponse qui soit rendue pédagogique et accessible. Et ça, je pense que c'est des exercices utiles. En réalité, de ne pas ignorer ces discours, mais d'apporter des éléments, parfois même drôles, pour permettre de prendre de la distance et d'y répondre. Et tout dernier volet, donc on baigne dans des discours d'inaction. Ça, c'est important de les montrer à voir. Donc ça a été cartographié. Les 12 discours les plus fréquents d'inaction, qui sont en fait des œillères qu'on se met pour justifier de ne rien changer. Donc il y a par exemple, il est trop tard, tout est foutu, on va vers un effondrement généralisé. C'est un discours d'inaction. Il faut faire que des petits pas, c'est seulement ce que la société est prête à faire, des discours et pas d'action. C'est une autre forme d'inaction, souvent présente à haut niveau politique. On a l'idée qu'on pèse rien sur les émissions de gaz à effet de serre, la France c'est seulement 1, 2, 3% selon ce qu'on regarde, qui revient très souvent et qui est intéressant parce que la majorité des émissions, c'est celle de pays qui représente 1, 2, 3%.
Oui, c'est flagrant.
Donc quand on les agrège, donc là c'est dilué en fait... Et on peut dire ça pour tous les aspects, hein, c'est qu'un pouillem, donc il n'y a aucune raison de changer. Et puis après, il y a le dernier volet, c'est trop cher, c'est trop coûteux. Alors qu'en fait, ne pas agir, c'est plus coûteux. Et on le sait économiquement, construire une économie décarbonée, ce sera une économie viable, qui elle-même créera sa propre activité, mais avec des investissements sur les infrastructures plutôt que la consommation jetable, on va dire. On sait que ne pas mettre en place l'adaptation a toujours en fait des coûts de perte et de dommages plus importants également. Et donc c'est intéressant d'avoir aussi une cartographie de ces discours d'inaction et savoir comment les lire. Moi j'avais fait des exercices en classe avec une sorte de carte de loto. Donc j'écoutais tous les discours et puis j'avais à la fin ma carte de loto et je cochais. Ah on a entendu celui-là, celui-là, celui-là. Ah, celui-là, pas encore. Il y a quelqu'un qui dit, bah justement, hier, sur Internet, je l'ai vu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on les a sortis, c'est comme si on ouvrait des œillères. Parce qu'en fait, ça empêche de s'interroger. Donc, c'est intéressant de voir comment ça ouvre quand on les rend explicites. Et ensuite, qu'on se dit, OK, on a évacué ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Merci mille fois, Valérie Masson-Delmotte, pour cette présentation et ces réponses. On va enchaîner.